Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Dehuit.
Madame, monsieur, bonjour. Pour cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire, j'ai le plaisir de recevoir François Mali, grand reporter au Point et auteur de Napoléon et la folie espagnole. Aujourd'hui, pour Canal Économie, vous évoquez un personnage au nom célèbre, Hugo, mais il ne faut pas se tromper, pas Victor, non, l'écrivain, mais son père Léopold, puisque nous sommes toujours dans la campagne espagnole de Napoléon Ier. Alors avant de revenir à son rôle en Espagne, arrêtons-nous sur le personnage, qui était-il ?
Alors Léopold Sigisbert Hugo, prénom difficile, c'est un Lorrain. Et il faut savoir que la Lorraine a fourni de grands bataillons de soldats à la Révolution. C'est un fils d'un menuisier assez riche, de Nancy. Et c'est un garçon qui a le métier des armes dans le sang, puisqu'il s'engage à 14 ans et demi, en 1788. Et évidemment, on doit s'apercevoir qu'il est un peu truqué, puisqu'il est renvoyé dans ses foyers. Il va une deuxième fois, quelques mois plus tard, réessayer d'intégrer l'armée. Pareil, et puis bon, ce sera la troisième que finalement, à 16 ans, il rentre dans l'armée. Ses quatre frères sont aussi six soldats. Il y en a deux qui sont tués en 1793 à Wissembourg. Et les deux autres finiront d'ailleurs leur carrière comme officier supérieur après avoir servi sous ses ordres. Alors, c'est un personnage qui va, en Espagne, devenir le contre-guérillero français. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la guerre d'Espagne, il ne participera pas aux grandes batailles rangées contre les Britanniques ou les Espagnols. Son métier, ça va être de se battre contre la guérilla, et notamment contre la guérilla d'un redoutable brigand qui s'appelle, enfin brigand non, guérillero, qui s'appelle El Empecinado, l'Empoissé, qui est un personnage en Espagne très célèbre, hein, comme tous les chefs de guérilla. Et pourquoi lui contre guérillero? Bah parce qu'en fait, durant les guerres de la Révolution, après avoir combattu sur le Rhin, il va avoir une longue expérience en Vendée. Et la Vendée, c'est vraiment la petite guerre, enfin la guerre civile, ce que vont finalement connaître les Français.
Oui, parce que c'est une des caractéristiques de la campagne espagnole.
C'est
les Français découvrent la guérilla.
Ils découvrent la guérilla. Alors jusqu'à maintenant, ça s'appelait la petite guerre, et la Vendée, on appellera ça encore la petite guerre. C'est l'appellation du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le fait d'être harcelé par des groupes de civils armés, tout ça donnant lieu à des représailles, à des exactions, à des villages brûlés, enfin bref, toutes les horreurs de la guerre civile, mais qu'on connaît aujourd'hui, finalement, hein, depuis deux siècles, c'est ce qui est devenu plus ou moins la guerre. Il y a les grandes batailles, et puis il y a ce qui se passe sur les arrières ou les flancs des troupes, c'est-à-dire le harcèlement de la guérilla. Donc, il va y acquérir en Vendée une expérience formidable contre les troupes des Chouans. Hein. Il va se battre pendant deux années.
Alors là, il faut peut-être préciser d'ailleurs quel était son camp politique, je dirais.
Parce que c'est Victor, un Jacobin farouche.
Oui, il va même changer son prénom, se faire appeler Brutus.
Brutus, il se fait appeler Brutus. C'est un véritable Jacobin, un révolutionnaire redoutable et qui est vraiment très emporté, très enflammé. C'est une des caractéristiques du personnage qu'on retrouvera un peu chez son fils d'ailleurs, mais plus canalisé.
Oui, mais pourtant, Victor Hugo a essayé d'atténuer l'attitude de son
Au début, mais on va comprendre pourquoi. Voilà. C'est parce que tout jacobin qu'il est, jacobin farouche, il va rencontrer pendant la Vendée sa future femme Sophie Trébuchet, qui elle, plutôt, et c'est une femme qui s'est mise à l'abri dans la région, elle a fui Nantes et les massacres de Carrier, et c'est plutôt quelqu'un qui est proche des Chouans. Elle a plus de sympathie pour les Vendéens. Donc, ils vont se marier, ça va être de cette curieuse union va naître Victor Hugo, finalement. Quelqu'un, Victor Hugo, qui va, pendant toute son adolescence de poète, va défendre le royalisme, et puis qui, vers la fin de la vie de son père, va écrire l'Ode à la colonne, va soudain se remémorer la gloire de l'Empire. Donc, c'est aussi ça, Victor Hugo, c'est le mélange de ces deux personnages. Alors, le couple Hugo est très important.
Oui, oui, oui.
Il est très important dans la vie de Victor, de la vie de Léopold et de Victor Hugo, bien sûr. Donc, ils se marient. À la suite de ça, il se trouve que le père de Victor Hugo a quand même quelques problèmes. C'est effectivement quelqu'un, c'est une, je vais employer l'expression, c'est une grande gueule, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se brouille facilement avec ses supérieurs hiérarchiques, donc il va vivre une vie de bohème militaire. Ils vont connaître 6 garnisons en 5 ans, il ne cesse d'avoir des conflits, bon, bref.
Oui, parce que c'est un soldat très courageux, quand même.
C'est un soldat courageux.
Sur le terrain.
Qui combat très bien, mais qui a pas véritablement un grand sens politique.
Voilà, et qui ne supporte pas l'autorité.
Et qui, voilà, a beaucoup de mal avec l'autorité. Donc, heureusement, il a une chance, c'est que en 1800, il rencontre Joseph Bonaparte, qui
va être son protecteur.
Voilà, Léopold Hugo a obtenu il commande la place de Lunéville. Il a été auparavant dans l'armée du Rhin, auprès de Moreau. Il a été d'ailleurs un proche de Moreau, ce qui lui sera reproché par la suite. Il a été fait chef de bataillon sur le champ de bataille. Et donc, il rencontre Joseph à Lunéville parce que Joseph est venu pour les pourparlers de paix avec les Autrichiens. Et Joseph va se prendre d'amitié. Enfin, il va apprécier cet homme. Il envoie beaucoup de lettres au ministère de la Guerre, au ministre de la Guerre, en lui disant qu'il faut donner de l'avancement à ce garçon.
Avancement qu'il aura du mal à obtenir.
Et sa vie n'est pas formidable. Il refuse une affectation à Clèves, il part à Besançon. À Besançon, ça se passe très très mal avec son chef. Et il est muté à l'île d'Elbe. Alors, c'est vraiment pas une promotion, mais c'est un passage merveilleux parce qu'il a 3 fils. Hein, donc Abel, Eugène et Victor. Et il va élever, il va rester avec ses 3 fils pendant plusieurs mois à l'île d'Elbe, dans ses mémoires. C'est un très très beau passage. Et donc, sa femme, pendant ce temps-là, elle est à Paris pour plaider sa cause parce qu'il y a beaucoup de travail. Malheureusement, il se trouve que Léopold Hugo aime beaucoup les femmes. Il va donc se lier avec la fille de l'intendante de l'hôpital de Portoferraggio et Catherine Thomas, qui restera sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Et quand, évidemment, Sophie Trébuchet revient, quand Sophie Hugo revient, elle prend ses enfants, elle part, et la rupture est consommée. On pourrait la croire définitive, c'est pas le cas du tout.
Non.
Parce que l'affaire continue. Alors.
On va arriver en Espagne, finalement, en Espagne. Parce que c'est là où l'histoire va se continuer.
La chance de Léopold Hugo, c'est quand Joseph est nommé roi de Naples en 1806. Il devient l'un de ses officiers. Alors, il n'est plus officier français, c'est très important, hein. À partir du moment où on part à la cour de Naples, on n'est plus officier français. Il va devenir peu à peu colonel du Royal Corse. Pourquoi ? Parce que il y a une grande rébellion et ça va être après la Vendée, la deuxième école des soldats français contre la guérilla, ça va être la Calabre.
Oui, hein.
Et il va y jouer un rôle absolument formidable puisque c'est lui qui va capturer Fra Diavolo, le célèbre Michel Pezza, le bandit présenté par les Français comme un bandit, enfin le chef de bande. Après une poursuite incroyable qu'il raconte dans ses mémoires, qui est formidable. Donc, il attrape Fra Diavolo, et c'est un de ses faits d'armes. Il va développer un véritable talent pour tout ce qui est de poursuivre sans relâche les rebelles dans les montagnes. On n'est plus là, effectivement, dans la bataille rangée, on est vraiment dans une autre forme de guerre. Alors ça va durer 2 ans, et quand Joseph est nommé roi d'Espagne, il le rejoint en tant que... le Royal Corps ne participe pas à cette campagne, donc il devient adjoint de Joseph. Et là, Joseph va lui demander de prendre en main ce qu'on appelle le royal étranger. Le royal étranger, ce sont des soldats qu'on a trouvés dans les prisons de Madrid. Alors, il y a de tout. Il y a
ça,
de tout.
C'est moins qu'on puisse dire.
Il y a même des Anglais, il y a des Égyptiens. Ce sont soit des anciens de l'armée des Bourbons qui ont été faits prisonniers. Il y a même des Français qui ont été faits prisonniers du corps de Dupont à Bayonne. Hein. Il y a des mercenaires. Bon, bref, c'est à lui de réorganiser tout ça et d'en faire...
Une
troupe cohérente, ce qui va pas être facile, ils sont pas armés, mais il a du métier et il va y arriver quand même. Et c'est à la tête de ce petit détachement de peut-être 2000 hommes et un peu de cavalerie qui va aller s'installer à Avila, qui est un petit bourg au sud de Madrid, qui a l'avantage d'être sur les lignes de communication de l'armée française. Et là, il va rayonner. Puisqu'il ira jusqu'à Ségovie, il va devenir gouverneur de plusieurs provinces, avec comme métier de se battre contre toutes les guérillas. Et il va faire ça pendant Jusqu'à la fin.
Tâche un peu ingrate, mais finalement dans laquelle il s'en est bien sorti.
Alors d'abord il s'en est bien sorti. Deuxièmement, il faut lire dans ses mémoires ce qu'il dit des chefs de bande. Un très grand respect pour ses soldats, parce que il dit très justement que dans ces bandes on trouve aucun des nobles de la cour d'Espagne. On trouve que des gens qui possèdent rien, qui ont rien à perdre, hein, et qui se battent vraiment bien. Donc, il rend un grand hommage mérité à ces rebelles, et il est. Et puis bon, il y a son fond révolutionnaire quand même quelque part. Les Français, quand même, ce qu'ils amènent là-bas, c'est ce qu'ils ont vécu chez eux quand ils ont été agressés par les monarchies européennes 15 ans plus tôt. Il peut pas ne pas être sensible à ça. Donc, il va très bien y réussir, et puis il va monter en grade parce qu'il va devenir gouverneur de Madrid.
Voilà.
Et là, on va lui confier une mission qui est dantesque, puisque en 1812, les Français perdent une bataille très très importante, ils perdent la bataille des Arapis, et on doit évacuer Madrid à toute vitesse. Alors là, le plan n'est pas de remonter vers la France, pas du tout. Le plan est de descendre au sud-est, vers Valence, où se rejoindront les troupes de Suchet, la cour de Madrid et les troupes de Soult, qui évacuent le sud de l'Espagne, c'est-à-dire l'Andalousie. Le tout pour revenir vers Madrid. Et c'est lui qui doit organiser et diriger le convoi qui, en plein été, va partir de Madrid pour aller jusqu'à Valence. Donc, les femmes, les enfants, le corps diplomatique, enfin, 2000 voitures, une folie, les soldats qui meurent de soif, qui règlent leur compte à coups de fusil, mais bon, il y arrive, et on arrive à Valence, de Valence après de multiples conflits entre maréchaux, notamment entre Soult et Joseph, qui se haïssent. On reprend l'offensive, on reprend Madrid.
Les Anglais se réinstallent
pour très peu de temps à Madrid.
Et c'est lui qui va d'ailleurs être à nouveau chargé de l'évacuation.
Du dernier convoi.
Dans l'autre sens.
Oui, qui doit partir vers... Et là, où il manque vraiment, parce que c'est un peu la débâcle, les troupes françaises fuient, et il manque d'être attrapé par la guérilla de Mina, qui est l'une des plus redoutables d'Espagne. Grâce à des ruses, parce que c'est devenu quelqu'un de très rusé, il réussit à s'y échapper, et il livre bataille à Vitoria, qui est la dernière bataille des troupes françaises en Espagne, une débâcle totale pour les troupes françaises. À l'issue de cette bataille, il propose à ses soldats et à d'autres officiers d'aller enlever Wellington dans son quartier général, on lui dit non parce qu'on n'a pas d'ordre, il se retrouve donc... Il passe les Pyrénées, il se retrouve en France avec le débris de l'armée. Et là, ce qui lui arrivait en étant 1813, il va reprendre du service, mais quand on a été officier étranger, on reprend son grade d'origine.
Voilà.
Et donc, il se retrouve major. Et avec beaucoup de courage, il va aller prendre la tête de la place de Thionville, qu'il va défendre héroïquement, et qu'il ne rendra sur ordre de Louis XVIII. On va le renommer maréchal de camp, général. Et puis, l'attrait des combats, les 100 jours vont faire qu'il va reprendre la place de Thionville. Il livrait bataille à nouveau. Et puis là, pendant plusieurs années, ce sera la vie de demi-solde. Sa femme meurt en 1821. Et il revoit peu à peu ses enfants.
Voilà, alors on a un peu gommé un épisode, en Espagne sur lequel il faut revenir.
Alors, ouais.
C'est le retour de
Sophie Trébuchet en Espagne. Ce qui s'est passé, c'est que Sophie Trébuchet, voyant que la carrière de son mari en Espagne prend des proportions...
Il est couvert d'honneur par le roi Joseph.
Il lui envoie de l'argent pour élever les enfants et tout. Et un jour...
Elle a un amant qui est le général de Lahorie.
Le père de Victor Hugo. Tout à fait.
Et donc c'est général de Lahorie qui se cachait chez elle,
impasse des Feuillantines, qui sera arrêté puisqu'il a fait partie de la conspiration de Moreau et de Cadoudal. Il sera arrêté, mis en prison et il sortira de prison pour une autre conspiration sans même savoir comment elle est organisée. C'est la fameuse conspiration de Malais pendant la campagne de Russie, ce fou de Malais encore un. Et le pauvre Fanon de Lahorie sera fusillé sans savoir que toute cette conspiration était une mystification totale de la part de Malais. Et donc, Victor Hugo verra cette affiche annonçant que, parce qu'il faut savoir qu'il a eu une grande influence sur la vie de Victor Hugo, puisque pendant les mois, c'était son parrain, et pendant les mois où il s'est caché aux Feuillantines, c'est lui qui a fait lire tous les grands auteurs grecs, latins à Victor Hugo. Il a eu une véritable influence culturelle et affective sur cet enfant. Alors.
Donc il est arrêté. Il est arrêté.
Il est arrêté et Sophie part en Espagne avec les trois garçons. Alors elle part dans un convoi fort bien protégé parce que. Et Victor Hugo, qui a 9 ans, arrive à Madrid. Le père n'est pas au courant, bien sûr. Pique une colère noire. Joseph n'est pas là à ce moment-là. Il est allé, c'est la seule fois où il est allé en France à l'occasion du baptême du roi de Rome. Et Léopold Hugo enlève les enfants à sa femme, introduit une requête en divorce.
À sa maîtresse sur place.
À sa maîtresse sur place pour ne rien arranger. Bref, et quand Joseph revient, Joseph est fou de rage. Et il lui dit, je n'hésiterai pas à vous destituer si vous ne remettez pas les choses dans l'ordre, parce qu'il ne peut pas supporter l'image que donne, pourtant Joseph ne se prive pas d'avoir quelques maîtresses, et bâtard, mais enfin, bon. Donc, Léopold, heureusement, l'avance des Anglais fera que sa famille repartira. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce séjour va avoir une influence capitale sur l'œuvre de Victor Hugo. D'abord, parce que il va y voir des ors. Il ne faut pas s'étonner que Victor Hugo ait toujours combattu la peine de mort. Il va voir...
Des pendus...
Il va voir surtout un Espagnol se faire garrotter. Il va voir des scènes de massacres abominables qui vont lui inspirer aussi beaucoup de choses. Dans son œuvre, il y a Ruy Blas, il y a Hernani, il y a plein d'autres choses aussi qui remontent à l'Espagne. Et incontestablement, le séjour espagnol, tel qu'il le décrit ensuite, ça fait partie de l'émerveillement d'enfant. Enfin, à 9 ans, quand on a vu ça au milieu de la guerre, son père chamarré, les décorations, et puis bon, bah le fameux vert, hein, ce héros...
Mon père, ce héros regard si doux.
Regard si doux, évidemment. Hein, et le coup passe à si près que le chapeau tomba, ça se passe sur un champ de bataille espagnol. Donc voilà, alors pour revenir à Léopold Hugo, ben, en fait, il se rapproche de ses fils, qui eux, Victor lui-même... revoit ce père et donc est très ébranlé par l'aspect, enfin le culte de tous ces héros un peu gommés par la Restauration. Et il va être le premier lecteur des mémoires de son père. Et puis, en 1828, ils dînent un soir ensemble et le général Hugo a une attaque d'apoplexie et il meurt. Et donc, Victor Hugo sera très touché par cette mort, d'autant que son frère Eugène vient de mourir, fou lui. Aussi interné. Et il y a deux auteurs dont on peut pas nier que la vie de leur père était très importante dans leur carrière littéraire, c'est Victor Hugo et bien sûr Alexandre Dumas. Hein. Leurs deux pères étaient généraux et ça a beaucoup compté pour cette génération d'écrivains.
Ben voilà, c'est ainsi que se termine ce portrait du général Hugo, en effet qui occupe une place très importante dans l'œuvre de son fils. François Mali, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.